Bonjour Michel Jonas.
Bonjour Benoît.
Quel plaisir de vous accueillir.
Plaisir partagé.
Quel plaisir de vous retrouver avec ce nouvel album qui s'appelle Soul. Alors on s'était vu il y a quelques années dans ce studio, le studio de Jazz Radio, où vous m'aviez dit je ne suis pas un chanteur de jazz.
Oui.
Nous on s'est approprié quasiment le presque seul chanteur de jazz en France en disant de toute façon c'est Michel Jonas le chanteur de jazz. Parce qu'il y a l'idée de la boîte de jazz qui vous colle à la peau, mais les arrangements Soul... C'est ce que vous vouliez absolument pour revisiter le répertoire ?
Oui, mais là, j'ai été aidé par, par Manu Katché et Jean-Yves Angelo. Oui. Hein. Donc, il fallait qu'on trouve comme ça une nouvelle ambiance, des nouvelles couleurs pour des anciennes chansons. Et ça a été le fil conducteur, la musique soul. La musique soul, c'est la base, hein. Tu sais, on dit que Ray Charles, c'était le père de la musique soul. Donc
bien sûr.
C'est celui qui m'a donné envie de faire de la musique.
La soul, le blues.
Soul, le blues.
En tout cas, pour le son, la musique, c'est ce qui a compté.
Oui. Pour cette histoire de jazz là, dont tu as parlé, j'ai déjà dit 15 000 fois, c'est vrai, mais tant pis. C'est qu'il y a eu un malentendu. Mais c'est de ma faute un peu, parce que j'ai fait cette chanson, effectivement, qui a eu du succès. Et ce qui fait que les gens pensent que c'est cette musique-là qui m'a donné envie d'en faire. Or, pas du tout, non. C'est le rock'n'roll.
C'est le rock'n'roll, oui.
Ah oui. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les années 60. Tu sais, donc, et j'allais au Golf Draw d'Henri Leproux, où il y avait tous les groupes de rock qui débutaient. Voilà, c'était une belle époque pour commencer une carrière.
Bien sûr.
Parce que c'était la jonction entre cette grande tradition de la chanson française, de Brel, Brassens, Ferré, etc. Et puis, évidemment, une nouvelle énergie qui arrive.
Bien sûr.
Et qui était notre musique à nous, ados. Le rock'n'roll, voilà, d'un seul coup, des guitares électriques, des amplis, une basse électrique, une batterie, etc. Des sons nouveaux.
Mais on a eu aussi l'impression, en tout cas en tant qu'auditeur et amateur de musique, que vous êtes l'un des rares chanteurs-musiciens français à réussir à faire swinguer le français, alors que ça a été quand même une question pendant longtemps, est-ce que ça swing ou pas le français ? Et vous, on ne se pose pas la question, ça sonne, ça swing.
Mais oui, j'ai jamais compris cette histoire-là, parce que pour revenir aux années 60 et où il y avait des groupes de rock qui se créaient toutes les 3 minutes, il y avait cette idée préconçue que la langue française n'était pas adaptée au rock'n'roll ou au blues, en tout cas à la chose rythmique. Mais c'est complètement faux. La langue française, elle est géniale, elle est riche et elle s'adapte à tous les styles. Mmh. Et donc, je comprenais pas. Il y avait des groupes français qui chantaient en anglais parce qu'ils pensaient que c'était vraiment cette langue-là pour le rock'n'roll, pour le rythme et le blues, pour le blues, etc. Non. La langue française, je ne sais pas, moi, de toute façon, moi, ce que j'avais envie, ce n'était pas de chanter en anglais, mais je l'ai fait. Je l'ai fait un petit peu, puisque au début, j'étais dans des groupes de rock. J'ai commencé à chanter du rhythm and blues, de Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, Muddy Waters, etc.
Ouais.
Je l'ai fait.
Oui.
Mais moi, je voulais chanter de la langue française, puisque j'avais été quand même nourri par... La richesse des textes de Brassens, l'interprétation de Brel, etc., et de Piaf. Donc moi, c'est vrai que j'ai essayé de faire cette jonction entre cette musique qui m'a, à moi, donné envie d'en faire, c'est-à-dire la pulsion rythmique, et de mettre ça au service d'un texte, parce que c'est ça la grande tradition de la chanson française. L'importance des textes, des histoires qu'on raconte, des émotions qui sont exprimées, des sentiments qui sont exprimés, et c'est pas du tout incompatible.
Bien sûr.
Pour moi, la musique devait être au service du contenu, c'est-à-dire au service du texte.
Et le texte est primordial. C'est ce que vous travaillez en premier.
C'est ça, c'est comme ça que je travaille, parce que c'est le texte qui va me donner la musique, qui va appeler la musique. Elle va appeler sa propre musique, le texte va appeler sa musique. Et je suis incapable de faire le contraire. J'étais d'ailleurs étonné de voir qu'il n'y a pas tant de gens qui travaillent comme ça. Moi, je suis incapable de faire une musique comme ça, d'une façon abstraite, puis de me dire, ah, c'est bien, je vais mettre un texte par-dessus. Je ne sais pas faire ça.
Et est-ce que vous pouvez arriver en studio les mains dans les poches?
Ça veut dire quoi?
Eh bien, c'est-à-dire sans rien avoir écrit ni préparé.
Non, ça, je ne peux pas faire.
Ça, ce n'est pas possible.
Non, parce que comme je vous le dis, c'est l'importance des textes. Oui. Les textes, bien au contraire, je les travaille très longtemps. Je peux travailler des textes sur des années. Parce que je me suis arrêté, parce que je n'avais pas trouvé la suite, ou que j'avais qu'un seul couplet, ou il me manquait quelque chose, ou bien j'ai deux phrases. Donc, je peux me trimballer comme ça des textes. J'en ai des valises. Hein. Et ce n'est pas une image. C'est-à-dire, j'écris, déjà, j'aime bien écrire. L'acte d'écrire physique. J'adore les stylos-plumes. J'ai beaucoup, beaucoup de stylos-plumes, des anciens. Je fais un peu une collection. Mais c'est un truc d'enfance. Mes premiers jeux d'enfance, j'étais dans la cuisine et je jouais, j'appelais ça le jeu du bureau. C'est-à-dire, je m'installais, je mettais des buvards, il y avait des buvards à l'époque, avec des publicités dessus, du papier, et puis une règle, etc. Et j'aimais ce moment de se préparer.
Voilà. D'accord, ah oui.
De se préparer à écrire. Mais j'étais môme, hein, vraiment. Donc, j'ai toujours aimé ça. Donc, il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire, c'est pas un ordinateur, c'est des cahiers d'écoliers que je remplis. Et donc, j'en ai beaucoup, parce qu'à chaque album, j'écris pas 12 chansons, j'en écris 25 ou 26. Pas forcément fini. C'est pour ça que quand je recommence un nouvel album, je relis, pas tout, parce que ce serait difficile, mais une sélection de certains cahiers que j'ai déjà mis de côté en me disant ça, et ben pour la prochaine fois, il y a des trucs dedans.
D'accord.
Alors que la musique, à la limite, ça oui, je pourrais presque arriver en studio, comme tu dis, les mains dans les poches, mais le texte...
Le texte, c'est pas possible.
Le texte est prêt. Peut-être trouver la musique au dernier moment. Mais encore que, il faut que je sois seul.
Ah oui.
Je crois qu'il y a un ingénieur du son qui me regarde.
Mais pourquoi?
Parce que j'ai besoin d'être seul quand j'écris ou quand je compose. Voilà, de ne pas être observé. Et la musique, donc, la composition, est quelque chose de plus physique, de plus spontané, de plus intuitif. Il y a l'intuition qui joue tout le temps dans la création, dans le texte aussi. Mais il y a un peu une goutte d'inspiration, et puis il y a beaucoup de travail. Mais la musique, c'est quelque chose qui doit venir... Je ne peux pas travailler 15 jours sur une musique, par exemple. Si je n'ai pas trouvé sur un texte, ça veut dire que là, je vais me planter, et que je vais tourner autour, ça ne va pas aller. Donc je mets le texte de côté pour plus tard.
Et quand vous dites, Michel Jonas, que vous avez besoin d'être seul, même pas... Enfin, l'ingé son ne doit pas être là, les musiciens avec qui vous travaillez... C'est parce qu'il y a une forme de timidité ou c'est un besoin de concentration absolue?
Ah non, c'est un besoin de concentration.
Ah ouais.
Et d'être vraiment tranquille. Tu sais, c'est une rencontre. Hein. L'inspiration, c'est une rencontre avec l'artiste. Hein. C'est des moments très privilégiés. Et je pourrais pas. Je me sentirais observé. Quoi. C'est intime, comme tu dis.
Bien sûr.
Et c'est une création intime parce que écrire. Et chanter, c'est se dévoiler petit à petit, progressivement. Et c'est donc se mettre en relation avec quelque chose de profond en toi.
Et quand vous retravaillez, par exemple, pour l'album Soul, vos classiques, qui sont quasiment des standards de la chanson française, est-ce que vous vous dites « Ah, le texte, là, je ne suis pas tout à fait content, j'aurais dû faire ça. » Ou alors, une fois que c'est écrit, on n'y touche plus jamais.
Une fois que c'est écrit, c'est écrit.
On n'y touche plus.
Non, non, ça, c'est fini. Non, je parlais quand je commence à écrire des chansons inédites. C'est un moment très particulier, qui est un moment très intime. Tu vois, je ne peux pas écrire comme ça. Il y a des gens qui font ça.
Ou qui écrivent dans le bus, qui écrivent dans le métro, sur le téléphone.
Avec un échange avec quelqu'un, etc. Ça peut être intéressant, d'ailleurs. Mais c'est ça qu'il ne faut pas... Tu vois, avec la voix parlée, ma voix parlée n'est pas la même que ma voix chantée. C'est logique, parce que la voix parlée, quand tu parles à quelqu'un, tu peux prendre des détours. Tu peux des fois un petit peu faire attention, par pudeur, justement, ou faire attention à l'autre, etc. Tu peux prendre des gants, disons.
C'est ça.
Pas en chantant. La voix chantée, elle est directement reliée à ton être profond. C'est pour ça que c'est un acte très, très important pour moi. Écrire, parce que ça prépare le chant.
Et est-ce que cette voix ne s'est pas bonifiée avec les années? Quand on écoute l'album Soul, on se dit, mais il y a un truc dans la voix, il y a encore plus de graves, il y a un côté encore plus crooner qu'avant. Est-ce qu'il y a... Vous le remarquez, enfin, vous, avez, vous êtes d'accord avec ça ou moi
Oui, je suis d'accord avec ça. Je ne dirais pas qu'elle s'est améliorée, mais c'est vrai que je l'ai dit souvent, je préfère ma voix d'aujourd'hui à celle que j'avais quand j'avais 30 ans, ou 25 ans, ou 30 ans. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la voix, avec le temps qui passe? Tu peux perdre de la hauteur, des aigus. Tu peux avoir plus de difficultés à atteindre certaines notes. Par contre, elle s'élargit un peu. Donc, comme tu viens de le dire, elle peut prendre de la chaleur.
Ouais.
Elle peut prendre un petit peu de médium grave. Mmh. Voilà. Et ne pas atteindre des notes, si il faut... Ça m'arrive. Ouais. Les chansons que je chante sur scène, on peut baisser d'un demi-ton, d'un ton, et alors ? C'est pas très grave. Non. Personne s'en rend compte. Et effectivement, il y a ça. Avec le temps qui passe, la voix s'élargit, prend du grave, prend de la chaleur, et je préfère ça.
Est-ce qu'il y a eu à une époque une espèce de rêve américain de la musique du son ? Je pense à quand vous enregistriez avec Steve Gadd, Larry Coryell, les musiciens... ce son très côte ouest, très californien, dont vous parliez même dans les
Abraham
disques.
Abraham Laboriel, tu veux dire,
ouais.
Le bassiste, oui.
Est-ce qu'il y a eu, un rêve comme ça de pouvoir, d'être le chanteur français qui
a enregistré là-bas? Non, c'est pas un rêve comme ça, d'être le chanteur français qui, etc. Non, mais si tu veux, je sais pas, c'était effectivement un rêve de pouvoir... enregistré avec Steve Gadd, avec Abraham Laboriel, avec Louis Conte, qui sont des figures de la musique américaine. J'étais proche de la musique américaine.
Oui, voilà. C'est ça, absolument.
C'est celle qui m'a nourri aussi, parce que eux-mêmes ont été nourris avec le blues, avec etc. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est en prise directe. Donc c'est leur façon tout à fait naturelle de jouer. Il y en a d'autres de ma génération qui étaient plus tournés vers la musique blanche, peut-être vers les Beatles, que j'aimais bien aussi.
Oui.
Mais moi, c'était plus la musique black, la musique américaine, etc. Et je savais que ça se passerait bien. Donc, c'est pas un rêve, le rêve de machin. C'est juste, c'est quand même agréable d'avoir des gens avec toi qui... Et pas seulement faire un disque, mais de partir en tournée avec.
Ah ouais.
Oui, on est parti en tournée avec. C'était le spectacle Où est la source. Donc c'était un mélange. D'ailleurs, Jean-Yves D'Angelo était là. Voilà, c'était un mélange de. Voilà, il y avait Louis Conte à la percussion, Abraham Laboriel à la basse, Steve Gadd qui est.
Steve Gadd, ouais, bien sûr.
Qui est un monument. Voilà. Donc c'est juste que c'est. Je savais que ça collerait, quoi.
Et vous êtes aussi très très fidèle dans vos collaborations, les musiciens avec qui vous jouez. Vous citez Jean-Yves D'Angelo, qui est avec vous, vous êtes avec lui, vous travaillez ensemble depuis très très longtemps. Manu Katché aussi.
Il est là.
Vous allez ce soir offrir aux auditeurs de Jazz Radio un showcase piano-voix. Donc ça, c'est une formule avec laquelle vous tournez aussi tous les deux.
Oui, bon, ça fait maintenant 13 ans même.
Ça fait 13 ans, ouais. Donc il y a une vraie fidélité aussi avec les musiciens.
C'est un vrai plaisir, ça, de faire ce piano-voix.
C'était un immense bonheur pour nous. Et puis, il y a un invité sur cet album.
Oui.
Il y a un invité. J'aimerais bien... Alors, il doit être par là, il va venir nous voir.
Oui,
j'aimerais que vous
bien.
Nous disiez comment vous avez fait cette rencontre et comment... C'est l'invité surprise. Hein. Michel, je vous laisse, Michel Jonas, je vous laisse présenter.
Eh bien, c'est Ben Oncle Saul.
Ah, oh, mon cher Ben. Notre cher Ben Oncle Saul.
Il est là.
Qui intervient sur un titre... L'album Soul,
alors nous, non. Salut Michel, salut Benoît.
Salut Ben.
Qui d'autre pouvait faire partie de cet album si c'est pas lui?
Vous vous êtes rencontrés comment? Comment la proposition s'est-elle faite? On a envie de tout savoir.
Dire toute la vérité.
Ouais.
Rien que la vérité, je le jure.
La vérité, je le jure. Eh bien, c'est Manu Katché qui m'a suggéré un jour, on était en studio, il me dit, et avec Ben en plus. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr. Ouais. C'était d'une telle évidence, parce que moi, j'adore ce qu'il fait, etc., depuis toujours. Et j'avais, c'est vrai, c'est lui qui m'a suggéré ça. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre.
Ouais.
Et je suis vachement content.
Bah, nous, on est, le résultat est magnifique.
Merci. Bah ouais.
Alors, et pour toi, Ben, ça fait...
Du coup, on s'est rencontrés en studio la première fois. Ouais. Et effectivement, je reçois un coup de fil de Manu. Il me dit, écoute, ça te dit quelque chose, Michel Jonas? Je dis, oui, bah quand même. Pas déconner.
Et ce titre, c'était celui-ci, pas un autre, ou vous en avez essayé plusieurs?
Non, il y a eu. Il y a eu dans la liste des morceaux proposés celui-là, et moi je le connaissais déjà, parce que j'ai grandi avec la musique de Michel. C'est pas pour le vieillir.
Non, je suis pas si vieux que ça, de toute façon.
Non, mais personne n'est vieux dans cette pièce. Personne n'est vieux.
C'est une cassette. Je pense pas que ce soit un album, je pense que c'était une compilation.
Ah, c'est possible, oui.
Avec, il y avait Super Nana, il y avait les fourmis.
Les fourmis rouges.
Ouais.
Qui n'est pas sur l'album Soul, la bière. Il a fallu quand même sélectionner 10 titres. Il y en a tellement, il y a eu tellement d'albums. Donc ça aussi, ça a dû être difficile pour vous, Michel.
Non, parce que tu vois, les fourmis rouges, par exemple, ne rentraient pas vraiment dans ce cadre Soul.
Ouais. Et donc, Ben, on te donne le texte. Et comment vous travaillez? Vous partagez
C'est au feeling? C'était un peu au feeling. Bon, tu avais tes équipes aussi qui avaient leurs idées, donc...
Et puis ça s'est fait assez naturellement. Donc voilà, on s'est fait un couplet chacun, on fait les refrains ensemble, tu vois. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'il est arrivé et il m'a dit je veux absolument faire Salut Pépita ou El Shérif.
Ah oui, que j'adore.
Il voulait faire ça. Oui, j'étais content qu'il dise ça.
Pépita ou El Shérif que je l'assomme.
Ah ouais, avec ses graves là.
Ça lui colle.
Et puis ces trouvailles dans les textes, enfin, Michel Jonas, vous savez faire ça. On parlait tout à l'heure de comment faire swinguer aussi un texte. C'est qu'il y a de véritables trouvailles dans les textes. Ça sort d'où, par exemple?
Ah bon, ça aussi.
Vous savez pas?
La langue française, elle chante, quoi. Je suis pas le seul à faire swinguer la langue française.
Non, mais ces images-là, on a l'impression d'être devant un film quand on entend ces paroles.
Tu sais, c'est ce qui, encore une fois, c'est ce qui m'a nourri, moi. Je voyais Piaf, j'ai vu Brel, j'allais le voir tous les soirs.
Ouais.
Il y avait ce qui s'appelait les promenoirs à l'Olympia, où tu étais au fond de derrière, tout au fond de l'orchestre, ça coûtait 5 francs, tu étais debout, j'allais le voir tous les soirs. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Brel? C'était un chanteur comédien. Chaque chanson était une histoire, un film, etc. Tu vois, il incarnait un personnage, il décrivait un paysage. Donc pour moi, c'est ça aussi, la chanson.
C'est ce que vous faites sur scène. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai vu un concert il y a des années à Vichy, et j'ai beaucoup ri. Parce qu'en fait, moi j'avais l'impression d'assister à une espèce de spectacle, un peu one-man show. En même temps, le concert de Michel Jonas, c'est jouer les titres, mais pas que les chanter, c'est vraiment les interpréter. Vous êtes aussi comédien, on le sait. Il y a ça, c'est vraiment le...
Bah oui.
Parce que vous avez dû voir avec Brel...
Exactement, puis moi j'ai commencé avec ça. Ouais. Avant de chanter, je prenais des cours d'art dramatique. Hein. Mmh. Donc j'ai commencé avec ça et j'ai jamais voulu le perdre. Et puis, quand tu réfléchis bien, il n'y a pas une énorme différence entre ces deux manières de s'exprimer, quoi, entre le comédien et la chanson. C'est toujours incarner un personnage, hein, et puis raconter une histoire.
Ouais, mais il y a une forme de liberté, si je me permets.
Ouais, vas-y. Hein. Vas-y.
Il y a une forme de liberté dans le choix des sujets et des textes. C'est vrai, c'est...
Ouais.
Il y a un univers presque, des fois, moi, Tex Avery, lui qui...
Ouais, ou Tarantino, je sais pas.
Ah, c'est bien comme parallèle.
Ouais, ça me faisait penser à presque du dessin animé dans l'imaginaire. Et puis, ça se prenait pas au sérieux. Il y avait,
oui, ça, c'est vrai.
Il y avait beaucoup de fun, quoi.
Bah, comme toi.
Ouais,
ce que tu fais, c'est ça.
Ah, ouais, carrément.
C'est pareil.
Et en même temps, beaucoup de tendresse, beaucoup de sensibilité, comme dans le blues, comme dans la soul, où peut-être la musique yiddish, je ne sais pas, ou musique tzigane, et les choses qui nous ont ces espèces d'accords mineurs, on ne sait pas, il y a quelque chose qui nous touche au cœur encore plus que les autres chansons.
Tu as raison, il y a un lien entre la musique tzigane hongroise que j'ai entendue, entre Brel et Piaf, et Ray Charles, et le blues, et le tango, et toutes ces musiques un petit peu déchirées. Mm-hmm. Il y a un lien, hein.
Ouais, bien sûr. Voilà. Michel Jonas, vous êtes aussi très attaché à la qualité du son, à la production des albums. Vous avez envie que ce que vous enregistrez, vous, quand l'auditeur va l'entendre chez lui ou sur scène, tout soit restitué au point que, et ça, ça nous a un petit peu surpris, mais en fait, pas tant que ça, vous avez eu envie de signer, d'écrire votre nom et une petite phrase sur un système d'enceinte. C'est tout nouveau, ça.
Oui, c'est vrai, on me l'a proposé.
On vous l'a proposé, oui.
Et j'ai accepté parce que c'est simple, à comprendre. On est très exigeant dans le travail, dans un studio. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, etc. Et des fois, je me dis, mais comment ils écoutent, les gens? Des fois, tu vois les mômes, ils écoutent sur des petites enceintes comme ça, minuscules, quand c'est pas le portable. Tu vois, donc pourquoi on se donne tous mal? Alors donc, c'est vrai qu'il faut avoir des moyens d'avoir une belle chaîne, etc. Mais on a peut-être perdu ce truc-là. Donc faut le retrouver. C'est important. Comment t'écoutes cette musique?
Donc c'est l'enceinte Esprit Amélia, une série limitée, Michel Jonas.
Oui, c'est ça.
Pour écouter ça à la maison. Merci beaucoup à vous deux. Merci, monsieur. Merci, Michel Jonas. L'album, c'est Soul. Merci infiniment, Ben, aussi, d'avoir pris un petit peu de temps et d'avoir accepté l'invitation de Michel Jonas.
Oui, merci, Ben.
Très bonne tournée. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Jazz Radio. Jazz and Soul.